o povo é quem mais ordena. Dentro de ti há cidade, dentro de ti há cidade.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast disponible sur le site Spectre, spectremedia.org, avec beaucoup d'autres podcasts liés au mouvement d'émancipation et disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Je rappelle que Spectre est un projet militant qui met à disposition aujourd'hui des dizaines de podcasts sur un site entièrement gratuit et sans pub. On ne reçoit aucune subvention publique, on n'a évidemment pas de gros financeurs privés, donc n'hésitez pas à nous soutenir, que ce soit en diffusant nos podcasts parmi vos amis, vos camarades, vos collègues, etc. Ou même, si vous le pouvez, financièrement à travers un don, même modique, sur notre site dont je rappelle l'adresse spectremedia.org. Ce nouvel épisode va porter sur le rôle des syndicats dans la lutte contre le fascisme. On dit souvent que ce combat contre l'extrême droite et contre tout ce qui lui prépare le terrain ou lui facilite la tâche, c'est l'affaire de tous et toutes. On a raison de dire cela, et si c'est l'affaire de tous et toutes, c'est donc l'affaire des travailleurs, des travailleuses et de leurs organisations de défense que sont les syndicats. Bien sûr, les syndicats bataillent et doivent batailler sur les salaires, sur les conditions de travail, sur les horaires, sur la santé au travail, sur les discriminations dans la sphère professionnelle, etc. Mais dans la mesure où le fascisme vise la destruction de toute forme de contestation, de tout contre-pouvoir, et donc bien sûr du mouvement ouvrier, des syndicats, les syndicats doivent prendre au sérieux sa progression et le danger qu'elle fait peser sur les travailleurs et les travailleuses des classes populaires, les salariés. Partout où l'extrême droite est arrivée au pouvoir et s'y est maintenue durablement, partout le droit de grève a disparu et partout les syndicats indépendants de l'État et du patronat ont été balayés, étouffés ou écrasés par la force. Partout les travailleurs et travailleuses se sont retrouvés atomisés car privés d'instruments collectifs de lutte pour leurs intérêts spécifiques et antagonistes de ceux du patronat et de la bourgeoisie. Beaucoup de syndicalistes le savent et sont d'ores et déjà mobilisés, parfois au quotidien, pour faire reculer l'extrême droite. C'est le cas de Kamel Brahmi, qui est secrétaire général de l'Union départementale de Seine-Saint-Denis, du 93, de la CGT, avec qui je vais échanger dans cet épisode, pour notamment donner à voir ce que font d'ores et déjà des syndicalistes et des syndicats face à l'extrême droite, et notamment des syndicats regroupés dans un cadre existant qui s'appelle VISA, c'est-à-dire Vigilance et Initiative Syndicale Antifasciste. Il faut savoir que VISA, c'est l'ancienne commission syndicale de Ralph Front. Ralph Front, c'était une organisation créée au début des années 90, qui n'existe plus. Elle s'est autodissoute au tournant des années 2010. Mais sa commission syndicale est devenue VISA et elle est bel et bien active dans de nombreux départements, y compris donc le 93. Bonjour Kamel.
Bonjour Hugo.
Alors d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours militant. On ne naît pas syndicaliste, on le devient. Donc toi, comment tu es devenu syndicaliste? Qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas de l'engagement syndical? Est-ce qu'il y a des combats qui ont joué un rôle particulier dans ce processus d'engagement? Et peut-être quelle place a pu jouer l'antifascisme, la lutte contre l'extrême droite, dans cet engagement militant qui a été le tien?
Ouais, t'as raison. Bah, moi, c'est un peu un parcours trois petits chats, chapeau de paille, en fait. C'est de fil en aiguille que je suis arrivé au syndicalisme. Moi, ma porte d'entrée dans l'engagement, c'est plutôt le politique. J'étais un militant politique d'une organisation de jeunesse, le mouvement des jeunes communistes, en fait, quand j'étais étudiant. Et c'est par ce biais-là que j'ai fréquenté la CGT, notamment en Seine-Saint-Denis. Et en Seine-Saint-Denis, le mouvement ouvrier, CGT, PCF, il y avait quand même pas mal de ponts, de liens. Et c'est comme ça que j'ai connu le syndicalisme.
C'était quand?
Alors, j'ai 51 piges, j'étais à la fac, je suis resté un peu trop longtemps à la fac, je crois, au goût de certains profs. Entre 19 et 25, 26 ans, tu vois, j'ai fréquenté Paris 13. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à militer. Avant, je n'ai pas eu la chance de naître dans une ville communiste ou au sein d'une famille communiste. Donc j'étais un jeune de quartier populaire. Et effectivement, les questions de racisme, plutôt racisme avant d'antifascisme et après antifascisme, elles étaient présentes. Hein. Moi, j'ai pas vécu dans un lieu où on était chassé par des fachos. Hein. C'était quand même... on garde quand même de jolis souvenirs de la jeunesse, mais que ce soit la télé, des fois les petites remarques, enfin on sent quand même qu'on est un petit peu différent de la masse, pour le dire vite. Et il y a quand même, alors moi je le dis, pas vécu dans une ville où j'ai souffert durement du racisme, mais c'est plutôt dans les familles qu'on nous angoissait sur la question du racisme. Il y a un film Tu vois, le film de Roger Hanin, là, Train d'enfer, qui nous a tous terrorisés dans les familles et qui faisait que nos parents disaient « Fais attention quand tu t'en vas », etc., etc. C'était l'année où il y avait, enfin, c'était les années où il y avait des skins qui se baladaient, qui paradaient à Paris, où on avait Jean-Marie Le Pen à la télévision, où j'ai quand même le souvenir d'assassinats racistes avec des vieux torchés qui tiraient à la carabine sur des gamins qui faisaient trop de bruit en bas des tours, quoi. Voilà, c'est un peu cette ambiance-là que je redis que j'ai pas vécu personnellement, mais qui a imprégné comme ça à ma conscience via la culture familiale, via la culture populaire, les choses qu'on regardait à la télé et d'autres. On était sensible à cette question de façon naturelle, sans engagement particulier, jusqu'à ce que je rencontre des militants politiques. Alors j'avais bien évidemment plutôt le goût de ce genre de choses, quoi. Moi, celle qui m'a éveillé à la politique, en fait, c'est Mafalda. C'est genre la gamine qui regarde le monde, qui se dit putain, il tourne pas rond. Voilà, on ne sait pas pourquoi on s'intéresse plus à la politique que d'autres. Mais...
Puis les années 80-90, c'est les années de montée justement du FN à partir de rien, puisque au départ, il tourne dans les années 70 entre 0 et 1%, et puis il y a cette émergence au début des années 80. Tu parlais de meurtres racistes. Alors effectivement, il y a des meurtres commis dans des quartiers populaires, parfois par des gardiens d'immeubles ou par des habitants, mais aussi évidemment par des policiers. Et puis en 95, il y a deux assassinats. Il y a celui de Brahim Bouaram jeté dans la Seine au moment d'une manifestation qui est organisée par le FN. Et à Marseille, Ibrahim Ali tué par deux colleurs d'affiches du FN. Donc c'est quand même effectivement des faits assez marquants. Je ne sais pas si ça a été marquant aussi pour toi dans ces engagements. Mais du coup, tu commences à militer dans les années 90, j'imagine.
Il y a Le Pen au deuxième tour, ouais, tu vois, il y a tout ça. Mais je commence à militer à la fac, pas que sur les questions d'antiracisme et d'antifascisme. Mais ça fait partie quand même... de nos engagements. C'est vrai qu'on est une génération, je suis une génération où il y a la montée de l'extrême droite politique. Il y a quand même de l'extrême droite dans les rues. Il y a encore une fois des skins qui paradent à Paris. Moi, pour te dire, des jeunes de quartier, on s'amusait aussi à créer notre petite bande et on s'est amusé pendant un moment à construire une petite team de red skins, quoi. Bon, on n'a pas chassé grand-chose. Mais à l'époque, tu vois, nos figures, c'était les Dukey Boys, les Raquins Vicieux, tout ça, ça faisait partie, tu vois, des légendes urbaines, des trucs qu'il y avait dans nos quartiers, quoi. Et puis le grand méchant loup, c'était Bad Skin,
Serge Ayoub.
Ouais, c'était ça. Donc ça fait partie des choses qui étaient là, sur lesquelles on sentait qu'il fallait qu'on s'organise, qu'on se mobilise.
Donc toi, tu es militant CGT, secrétaire général d'une union départementale CGT. Comment tu vois, on va revenir plus précisément sur ce que vous faites dans le 93 actuellement, peut-être sur un plan un peu plus général, comment tu vois le rôle du syndicalisme vis-à-vis du combat contre l'extrême droite, alors contre le RN en particulier, avec la menace que le RN parvienne au pouvoir l'année prochaine, au moment de l'élection présidentielle, et peut-être en particulier le rôle de la CGT?
Ben, la CGT, elle agit, je veux dire, à différents niveaux, au moins à trois niveaux sur l'antifascisme. Il y a un premier boulot interne, parce que ça grimpe quand même, ces idées-là. Et même en interne, il faut qu'on fasse gaffe. Donc on est amené des fois à démandater des gens parce qu'on remarque, on observe qu'ils sont trop liés à des partis d'extrême droite. Là, dernièrement, moi, il m'est arrivé ce type de choses. On a démandaté quelqu'un qui portait un mandat de conseiller du salarié ou des défenseurs syndicales parce qu'elle était proche du parti de Philippot. Et donc, et en interne, on organise aussi des formations pour bien... voilà, remettre des repères quand il y en a besoin. De toute façon, la CGT est intrinsèquement antifasciste, parce que les fachos, l'extrême droite, parmi les ennemis de base qu'ils ont, c'est le mouvement ouvrier, tu l'as rappelé, et les organisations syndicales. Et on sait très bien que l'extrême droite... voilà, si demain elle arrive au pouvoir, ce qu'elle t'apprend en premier sont toutes les organisations du mouvement ouvrier. Par ailleurs... on le résume ainsi, l'extrême droite, c'est le chien de garde du capital. C'est une option que peut choisir le capital pour continuer sa course en avant assez folle. Donc on a un boulot en interne, on a un boulot vis-à-vis des salariés, donc on forme aussi nos militants pour essayer de faire en sorte que le vote extrême droite ne progresse pas dans le monde du travail. Et on sait, ça c'est des études qui le démontrent, que fréquenter le syndicalisme, quand tu fréquentes le syndicalisme, tu as deux fois moins de chances de voter extrême droite. Hein. Je crois que c'est entre 19% quand tu es proche d'une organisation syndicale, hein, toutes confondues. Et si jamais tu es éloigné d'une organisation syndicale, ça monte à 37 ou 38%, tu vois, le vote RN. Donc il y a quand même une responsabilité, et puis on peut agir dans les lieux collectifs que sont les entreprises. Et puis après, il y a quelque chose aussi hors les murs, voilà, dans le monde social, grand public. Et ça, on le fait avec d'autres, notamment avec Visa 93, mais avec Solidaire et la FSU pour Visa 93, et des fois au-delà. Donc on est amené à prendre, à organiser des actions, à défendre aussi, entre guillemets, notre territoire. Parce que moi, je suis dans un département un peu particulier, Seine-Saint-Denis, hein, qui peut être vite caricaturé, qui sert d'épouvantail à l'extrême droite. Ils viennent de temps en temps. Voilà. Donc, avec d'autres, on est amené à se positionner, à réagir, etc., etc. En tout cas, au niveau de la CGT nationale, c'est maintenant un axe de travail parmi les priorités, si ce n'est la priorité, hein, la lutte contre les idées d'extrême droite.
Et justement, peut-être, toi, tu peux expliquer le rôle spécifique des unions locales et départementales par rapport aux syndicats d'entreprise, notamment dans cette prise d'initiative qui va un peu au-delà, justement, des questions strictement économiques et notamment sur le combat contre l'extrême droite, peut-être.
La CGT a un syndicalisme un peu particulier. Pour nous, l'intervention syndicale, elle ne se limite pas aux frontières de l'entreprise. Tout nous concerne parce qu'on est salarié dans la boîte, mais aussi on a besoin de services publics, on a besoin d'un environnement voilà, qui permet de s'épanouir, d'école, etc. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'organisation de la CGT, c'est ce qu'on appelle, elle marche, notre organisation sur deux jambes, et l'entreprise et le territoire. Donc ça revient au fait qu'on s'intéresse à notre environnement au-delà de l'entreprise. Et surtout, les structures que sont les unions locales et les unions départementales, eh ben, elles s'occupent des travailleurs qui n'ont pas de présence syndicale dans leur boîte, parce que tu peux avoir des myriades de boîtes où il n'y a pas de présence syndicale, ou une présence syndicale très petites, ou des boîtes qui n'ont pas le seuil pour avoir des droits syndicaux, etc. etc. Donc on sert un peu à ça, surtout les unions locales. Hein. C'est une espèce d'agence d'accueil de proximité du syndicalisme. Et au-delà de ça, elle se préoccupe aussi de gens qui sont hors des radars du monde du travail, qui peuvent être les hyper précaires, qui travaillent travail non déclaré, les travailleurs sans papier. Donc, c'est aussi des outils qui servent à faire valoir et à défendre les droits. Et on a, alors ça c'est plutôt au niveau des unions départementales, un rôle un peu institutionnel. On représente la CGT sur nos territoires. On est la petite confédération. Moi, je suis le Sophie Binet du 9-3, en fait, tu vois, donc avec un peu plus de cheveux. Donc ouais, tu vois, il y a des commissions en préf au niveau sur des problématiques d'emploi avec le conseil départemental, tu as le conseil des prud'hommes, tu vois, enfin voilà, un certain nombre d'institutions où c'est l'union départementale qui mandate et qui représente la CGT, mais la représenter, c'est pas que pour la représenter, c'est aussi pour porter en fait nos avis, nos analyses, nos critiques. Et puis on sert aussi à ce qu'on appelle interprofessionnaliser les mouvements et les luttes, c'est-à-dire que dans la conception de la CGT, il ne s'agit pas que de discuter avec ton taulier, ton patron sur tes conditions de travail dans ta boîte, parce qu'il y a les questions des retraites, de la sécu, tout ça qui concerne l'ensemble des travailleurs. Et là, il faut bien un outil pour coordonner, quoi.
C'est aussi pour que les travailleurs d'une entreprise ne soient pas isolés face à leur patron et qu'ils puissent trouver des relais à l'extérieur. On pense parfois que le 93 ne serait pas concerné en quelque sorte par la lutte contre l'extrême droite, ou moins concerné parce que le RN et les extrêmes droites en général sont plus fortes dans d'autres départements, souvent plus ruraux, plutôt loin des grandes métropoles. Pourquoi, malgré tout, ça te semble important, là où toi tu vis, là où toi tu travailles, dans le 93, de mener cette bagarre-là? Et par exemple, pourquoi vous avez décidé à la CGT de contribuer à créer VISA, donc Vigilance et Initiative Syndicale Antifasciste, sur le 93? Alors, sachant que VISA, c'est toujours des instances, c'est toujours au niveau départemental.
Ouais. Bah, il y a quand même de l'extrême droite qui s'incruste en Seine-Saint-Denis. Hein. On a quand même deux, trois endroits où ça existe. Donc, l'intérêt de VISA, c'était de pouvoir se mettre en tas pour réagir. Ces espèces de phénomènes qui sont les voisins vigilants, ça existe, tu vois, dans les villes de droite. On a aussi une association qui s'appelle SOS Parents, je crois, tu vois, qui luttait contre les contenus éducatifs d'éveil à la vie sentimentale.
Oui, on avait fait un épisode avec justement des syndicalistes de la FSU sur les questions éducation à la vie affective et sexuelle.
Voilà. Voilà. Mais voilà, il y a ça, on a ça aux alentours de Montfermeil. Pour te dire, dans la ville de Blanc-Ménil, on a un des porte-parole de Zemmour qui fait partie de l'équipe municipale.
Oui, il y avait même eu des militants radicaux et violents qui étaient venus sur Montreuil, qui avaient commis des violences sur Montreuil il y a quelques années.
Alors oui, Il y a eu plus récemment des dégradations d'un bâtiment du conseil départemental qui portait pour rendre hommage à une militante féministe et anticolonialiste du FLN. C'était le parc de la Bergère, ouais, à Bobigny, un bâtiment qui avait été dégradé. Tu vois, on a des petites choses comme ça, ou des happenings, des fachos sur une expo à Saint-Denis, des photographies d'habitants du territoire. Il y avait des photographies de femmes avec de femmes voilées, quoi, qui ont été dégradées par des fachos. Voilà, ça peut arriver de temps en temps. Et le gros des trucs, c'est Génération Identitaire qui avait squatté le toit de la CAF 93 avec une banderole xénophobe. Donc Visa 93, c'est un outil pour pouvoir réagir à ce type de provocation. Ça, c'est un premier élément. Donc, on prend position, on fait de la publicité, de la mauvaise publicité, et on dit ce qu'on a à dire, et on essaye aussi d'élever un rapport de force pour éviter que ce type de personnes se comportent chez nous comme ils iraient, entre guillemets, dans un mauvais parc d'attractions. Mais il y a aussi quelque chose au niveau de la Seine-Saint-Denis, c'est dans les discours d'extrême droite, souvent on s'appuie sur le 93 pour nous caricaturer ou faire peur, en fait, tu vois, c'est le lieu de réceptacle de toutes les obsessions, tous les fantasmes d'extrême droite, tu vois. C'est la Seine-Saint-Denis, c'est la drogue, c'est la violence, c'est l'islamisme, c'est blablabla, et puis maintenant le wokisme avec la gentrification de certains endroits, enfin, voilà, c'est on concentre...
C'est l'épouvantail rêvé.
Exactement. Donc Visa 93 nous permet aussi de pouvoir, encore une fois, prendre position, réagir, amener un contre-discours et se faire respecter, quoi.
Ouais, parce qu'eux, ils ont ce récit-là, alors notamment organisé autour de figures qui disent avoir habité en Seine-Saint-Denis, et en particulier Bardella, mais aussi Sarah Knafo. Et donc, il y a cette mise en avant de figures issues de la Seine-Saint-Denis et qui parlent en quelque sorte à la première personne pour dire « Regardez ce territoire qui est l'incarnation, en quelque sorte, de tout ce qu'on dénonce, quoi. »
Exactement. Après, c'est pipeau, hein. C'est, entre guillemets, pipeau, ils sont plein de fausses vérités et, enfin, de démagogie. Pour prendre Bardella, effectivement, il a un de ses parents qui vivait en 93, mais il avait un autre parent qui vivait pas dans 93, ses parents étaient séparés, et l'un de ses parents, c'est ton papa, était un entrepreneur, donc il était à moitié en Seine-Saint-Denis, et... Et puis, ça ne veut pas dire grand-chose à vivre en Seine-Saint-Denis, parce qu'en Seine-Saint-Denis, il y a des gens qui payent l'impôt sur la fortune.
Oui, c'est hétérogène socialement, même si effectivement, c'est un département qui concentre certaines poches de pauvreté, etc. Mais ça reste hétérogène socialement, selon les communes, au sein d'une même commune. Voilà, on a tout un tas de différenciations de classes.
Tu regardes le parcours de Sarah Knafo, elle a fait sa scolarité dans les écoles privées. Donc, quand elle ose affirmer à je ne sais qui qu'elle connaît mieux la Seine-Saint-Denis que je pense que c'était un député de la LFI, je pense non, c'est pas vrai. Elle connaît la petite bourgeoisie d'un territoire, comme d'autres connaissent la petite bourgeoisie d'un territoire. Ça ne veut pas dire qu'elle connaît la vie populaire dans le département, quoi.
Et alors, tu parlais du rôle notamment des unions locales sur l'accueil de travailleurs qui peut-être sont moins captés en quelque sorte par les syndicats d'entreprise, notamment les plus précaires et notamment les sans-papiers. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de cet aspect-là? Parce qu'évidemment, la question des sans-papiers ou dit des OQTF notamment est vraiment ciblée par les extrêmes droites. Qu'est-ce que, par exemple, peut faire ou fait d'ores et déjà la CGT par rapport à la question des sans-papiers, des travailleurs sans-papiers?
Alors, les unions locales qui sont hébergées dans les bourses du travail, c'est super important pour nous dans 9-3. C'est un leg du mouvement ouvrier, hein, les bourses du travail. Hein. C'est un peu des maisons du peuple où on vient, on rencontre le syndicaliste de façon gratuite, il regarde ta fiche de paye, il voit s'il y a un problème là-dessus, tu poses des questions. Donc voilà, c'est hyper important. Il n'y en a pas partout, et souvent, on essaye de les fermer, des villes de droite, malheureusement, pas que. Et donc, c'est souvent des combats aussi qu'on mène pour préserver, défendre et développer ces bourses du travail. Ça fait, on l'intègre aussi dans notre travail contre le fascisme. Parce qu'on estime que ces lieux où on peut créer du commun, des solidarités, c'est aussi des outils pour lutter contre le fascisme. Voilà, par essence. Après, elle s'occupe aussi, encore une fois, des salariés qui n'ont pas de présence syndicale dans les boîtes ou des précaires que peuvent être les travailleurs sans papier où là, ils sont surexploités. Et heureusement qu'existe ce type d'outils. Et le travail autour des travailleurs sans papier, c'est aussi une façon pour nous de déconstruire un certain nombre d'arguments de l'extrême droite, de casser des préjugés. On le dit de façon synthétique, le travailleur sans papier ne prend le travail de personne, mais occupe les emplois dont personne ne veut, parce que c'est les emplois les plus durs, généralement. Et ce sont donc des prolétaires comme les autres. Et quand on arrive à les régulariser. Déjà, on démontre encore une fois qu'ils ne vivent pas la mamelle de l'État social, comme peuvent raconter certains discours. On essaie de créer, entre guillemets, de la fraternité ouvrière, quoi. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même bateau, qu'on a tous des intérêts communs et qu'on a tous intérêt à tirer dans le même sens. Voilà, ça, c'est les unions locales qui s'en préoccupent beaucoup. Les unions locales aussi font un autre boulot aussi, elles forment. Elle forme les militants syndicaux. On a des formations CGT niveau 1, niveau 2. Donc, voilà, pour apprendre ce qu'est le syndicalisme, politiquement, hein, et puis après, donner des outils aussi pour intervenir dans les CSE quand on a des mandats. Donc, c'est ça en lien avec les unions départementales. Nous aussi, on se préoccupe pas mal de formation. Mais c'est hyper important, encore une fois, pour défendre et faire valoir les droits et ouvrir grand les portes pour qu'on puisse construire des solidarités.
Oui, parce que la lutte contre l'extrême droite, c'est aussi la lutte contre les idées d'extrême droite. Or, ces idées, malheureusement, infusent un peu partout, et y compris parmi des gens qui, j'imagine, peuvent être amenés à s'adresser à la CGT, pas forcément toujours pour y rentrer, mais aussi parfois pour peut-être devenir membre, parce qu'ils se retrouvent dans tel ou tel combat qu'a mené la CGT, je ne sais pas, pour la défense des retraites, mais ils peuvent venir avec toute une série d'idées qui ne sont pas celles de la CGT sur le plan du racisme, sur le plan du sexisme. Donc, il y a tout un travail hein, que vous faites sur ce plan-là.
Exactement. Les bourses du travail, elles sont ouvertes à tous les travailleurs. Donc, tu n'as pas que des gens de la CGT ou proches de la CGT. Hein. Des fois, c'est juste de façon opportune, quoi. Il y a quelqu'un qui peut répondre à ton problème, tu vas aller le voir. Après, le boulot des unions locales et des camarades des unions locales, c'est d'essayer d'accrocher, de fidéliser et de travailler le cheminement des consciences, quoi. C'est un peu tu viens comme tu es, hein, la bourse du travail. On va pas te demander de tout de suite de voter bien, de cracher les bons slogans, etc. C'est évident qu'il y a des fois des gens qui ont des idées, et c'est trop souvent même, qui sont éloignés de la cégette. Mais c'est pas grave. Et comme on se veut une organisation de masse, même en interne, une organisation de masse, il y a de la diversité. Donc il y a un vrai boulot, et moi j'ai pas peur du terme, c'est un vrai boulot politique à fournir.
Il y a un équilibre, j'imagine, à trouver entre justement avoir une forme d'exigence en quelque sorte trop élevée, ce qui ferait que ça mettrait à distance une bonne partie de la classe travailleuse, et avoir pas d'exigence du tout, ou comment d'être en quelque sorte opportuniste et d'accepter tout et n'importe quoi dans le syndicat. Et c'est un peu justement ce que refuse de faire la CGT quand elle se débarrasse de fait de gens qui sont des militants d'extrême droite, et ce que ne font pas d'autres confédérations qui acceptent, qui s'accommodent en quelque sorte de la présence en leur syndicat. Je ne vais pas balancer de nom, mais de militants clairement affichés comme membres de telle ou telle organisation d'extrême droite, que ce soit le RN ou effectivement les Patriotes de Philippot ou le Parti de Zemmour.
Ouais, nous on est assez intransigeants. Alors, je vais nuancer un petit peu pour que ça soit bien clair dans l'esprit. Nous, on est intransigeants avec ceux qui portent la voix de la CGT, qui ont des responsabilités internes dans l'appareil interne ou qui ont des mandats. Ça, il n'y a pas de débat, ça dégage. Par contre, on peut avoir des adhérents qui ont des idées pourries. La facilité, ça serait de dire « va voir ailleurs ». Et non, là non, il faut essayer de travailler pour convaincre. Vaut mieux ce qu'on se dit en interne, en tout cas nous à la CGT93, vaut mieux quelqu'un qui ait des idées pas terribles, qui reste dans le collectif CGT, et on a une chance que ça évolue plutôt bien, que d'exclure et de l'enfermer avec sa team de fachos, ou bien qu'il ressasse tout seul dans son coin et qu'il soit assez énervé de cette exclusion. Enfin, voilà, il y a une espèce d'équilibre à avoir, mais effectivement, si tu portes la voix de la CGT, si tu as un mandat au nom de la CGT, tu ne peux pas être proche des idées d'extrême droite, ça c'est une évidence. Mais comme tu le dis, ouais, il y a une espèce d'équilibre, on ne peut pas non plus être là à asséner des choses, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi.
Alors, on parlait de l'extrême droite dans le 93. Il y a en réalité assez peu d'implantations de l'extrême droite historique, c'est-à-dire le RN ou Zemmour, etc., même si tu notais quelques initiatives localisées. Est-ce que, d'une certaine manière, ça passe pas aussi via la droite bourgeoise traditionnelle, dont on sait qu'elle s'extrémise un peu partout, et où là, il y a intérêt à regarder quand même ce qu'ils font? Alors, je pense que tu parlais du Blanc-Ménil, il y aurait sans doute des choses, j'imagine, à regarder là.
Ouais, bah ça fait partie de ce qu'on fait avec Visa 93. On a mis deux villes en vigilance syndicale et citoyenne. Donc il y a le Blanc Ménil, dont un porte-parole de Zemmour. C'est quelqu'un qui est quand même dans l'appareil d'Éric Zemmour assez bien placé, qui a été le collaborateur du maire. Et il se dit dans la ville qu'il pourrait intégrer l'équipe municipale. Donc voilà, on regarde ça de façon très, très attentive. Et à Montfermeil aussi, où c'est le maire Xavier Lemoine. Il est membre du parti de Christine Boutin. Et on sait qu'il y a des liens, des ramifications avec des mouvements plutôt intégristes. Cette histoire de SOS Parents là, qui contestait les programmes éducatifs, ça venait de Montfermeil. Voilà, ça peut passer par ce que certains appellent le rassemblement des droites, donc il faut être hyper attentif. Il y a quelque chose d'autre de plus pernicieux aussi. On a eu écho, alors du coup on observe ça, de subventions à des associations dans des quartiers populaires, associations qui seraient peut-être aussi un peu proche de milieux catho plutôt réac, et avec le raisonnement d'une partie de la droite, et là je te parle de la droite classique, hein, LR, de dire qu'il y aurait un certain goût pour le religieux dans les quartiers populaires, dans certains quartiers populaires, et cette offre religieuse, c'est que les musulmans là, qui la produisent. Et donc, on va, nous aussi, faire de l'offre religieuse réac chrétienne pour capter une part de marché. Je te le résume comme ça. Mais il y a cette tentation, et là, on est en train de regarder, de tracer une subvention du conseil régional à une assoce qui atterrirait du côté de Bondy. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a besoin vraiment d'être sur le qui-vive, parce que ça s'infiltre de différents côtés, et c'est évidemment dangereux, ouais.
Alors, il y a la question un peu plus générale du rôle politique des syndicats. D'une certaine manière, le RN et l'extrême droite en général se construisent sur une forme de désespérance sociale. Et le syndicat ou les syndicats ont quand même un rôle sur ce plan-là, que ce soit en organisant les travailleurs et travailleuses par-delà les frontières nationales, religieuses, raciales, etc. Et puis de créer un espoir, de soulever une forme d'espoir dans la transformation sociale par l'action commune, etc. Comment tu vois les choses? Peut-être effectivement ça a un rôle aussi dans la lutte contre l'extrême droite, j'imagine.
Oui, maintenant, on estime qu'à chaque fois qu'on fait du syndicalisme, on fait de l'antifascisme. C'est-à-dire que quand on organise des luttes dans les boîtes pour améliorer les salaires et les conditions de travail, quelque part, de façon détournée, on fait de l'antifascisme. On fait de l'antifascisme parce que, tu veux bien résumer, on est là, nous, pour améliorer les conditions d'existence des travailleurs et des travailleuses. Quand on y arrive, on démontre que c'est possible, que grâce à l'action collective, grâce à la lutte, on peut. Quand on y arrive, on démontre que l'ennemi, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas l'immigré, c'est le patron, le capital. Ça permet de casser ce fatalisme, ce ressentiment qui alimente l'extrême droite. C'est un des carburants de l'extrême droite, c'est une espèce de conviction qu'ont de plus en plus de travailleurs que c'est quasiment impossible d'avancer socialement, et du coup ils se reportent vers ce qu'on appelle le régalien, quoi, la sécurité. On abandonne la sécurité sociale pour réclamer du sécuritaire. Et donc voilà, le syndicalisme peut démontrer qu'il est possible d'arracher des victoires pour améliorer les conditions de vie et reprendre notre dû, quoi. C'est-à-dire une autre forme de répartition des richesses. Et puis on porte, CGT porte un projet, ouais, un projet de transformation sociale, démocratique. On a pu le truc dans la valise, tout prêt, tout rédigé. On a de grandes idées, de grandes orientations, et il faudra que tout ça se mette en place de façon démocratique. En résumé, quand encore une fois, on impulse, on organise les luttes, on fait de l'antifascisme. Quand on renforce, quand j'arrive à renforcer mon organisation, je fais aussi de l'antifascisme. On estime que faire grandir les organisations de transformation sociale, mettre les gens dans une salle pour qu'ils débattent, élever le niveau des consciences, c'est aussi permettre de planter des graines et de faire en sorte que chacun, à son poste, continue la bataille et que ça fasse boule de neige, quoi. Renforcer notre organisation, on estime que c'est aussi faire de l'antifascisme. Et puis, quand on crée les conditions de rassemblement, là, on lance un appel pour la paix et contre les impérialismes dans 93. Et donc, on va avoir des signatures de l'ensemble des députés de gauche qui ont tous candidaté lancée sous la bannière NFP dans le 93, mais je vais avoir aussi la CNT, l'UCL, le NPA A. Ah, pour anticapitaliste, des élus socialistes. Enfin voilà, quand la CGT arrive à être la, soit le ciment, soit la maison commune qui fait en sorte que toutes les chapelles de la gauche, de la plus révolutionnaire en passant par les libertaires à la plus social-démocrate, se réunissent pour dire la même chose sur des grands principes. Et là, c'est pour la paix et contre les impérialismes. On essaye de jouer ce rôle-là.
Trait d'union,
voilà. Ouais.
Et ça, c'est pas, c'est un rôle de fait politique. T'as dit que t'avais pas peur du mot. Mais effectivement, dans le monde syndical, ça ne va pas forcément de soi du fait de la manière dont souvent est interprétée la charte d'Amiens. C'est parce qu'il y aurait une frontière presque insubmersible entre le syndical, qui concernerait en quelque sorte l'entreprise, et les luttes dans l'entreprise, des luttes économiques, etc., et le politique, qui concernerait l'électoral et le champ politique, bon, et qui d'une certaine manière fait que les partis auraient en quelque sorte le monopole du politique. Toi, ce que tu dis, c'est que le syndicat a aussi un rôle politique qui n'est pas le même. Ce n'est pas évidemment de se présenter aux élections, mais par exemple, la CGT a été investie dans s'est investie notamment ses militants dans la dynamique NFP sans être membre évidemment de la coalition électorale.
Alors la CGT fait de la politique mais pas au sens parti, c'est-à-dire la politique c'est des idées, c'est des contenus, c'est des projets. Donc évidemment qu'on fait de la politique quand on combat le fascisme, quand on porte un projet antiraciste, quand on a des propositions aussi pour l'égalité femmes-hommes, etc., etc. Donc on fait de la politique, mais on essaie, il faut ne pas se mêler aux disputes entre guillemets politiciennes. Moi, c'est ce que je dis à mes adhérents. La politique, c'est bien, faut en faire, adhérer aux organisations politiques de gauche de préférence. Juste, ne ramenez pas vos disputes au sein de l'organisation CGT. Voilà, on est encore une fois une organisation de masse, donc si on commence à ramener nos disputes, on va s'affaiblir, alors que notre responsabilité, c'est de faire grandir notre organisation pour porter les revendications des travailleurs et les faire gagner, quoi. Donc ça, c'est important d'avoir cet équilibre. Donc la charte d'Amiens, elle dit surtout qu'on est indépendant, mais qu'on n'est pas neutre. Il faut qu'on soit indépendant de toutes les chapelles, que ce soit l'Église, les organisations politiques,
l'État.
L'État, exactement. Je cherchais le dernier. Voilà, on doit être... Ça, c'est hyper important d'avoir cette indépendance et totale liberté. Mais par contre, on n'est pas neutre dans le débat. On a notre mot à dire. Encore une fois, tout nous concerne. Et des fois, on se frotte avec les politiques quand ils disent « Mais ça, vous savez, bah si, ça me concerne, ça concerne les travailleurs. » Après, sur des appels à voter, à part quand il y a le feu à la maison, c'est-à-dire pour faire barrage à l'extrême droite, généralement, on s'abstient d'exprimer des appels à voter. Et puis, tu as raison que c'est un débat de plus en plus aigu au sein des organisations politiques du mouvement ouvrier, parce qu'on sent qu'il est minuit moins 5, comme le dit Sophie Binet, quoi. C'est plutôt chaud, quoi. La possibilité d'avoir Bardella à l'Élysée ou une majorité de députés RN, elle est sur la table. Et donc, il y a peut-être de nouvelles relations à réfléchir. Mais au niveau de la CGT, on ne transigera jamais sur cette histoire d'indépendance. Alors, il y a une grande époque où il y avait cette histoire de courroie de transmission avec le PC. Mais ce que peu de gens disent, c'est que la courroie de transmission, elle allait des deux côtés. Hein. C'était pas unilatéral, hein, cette histoire de courroie de transmission. Il y a un espèce de lien plus ou moins organique. C'est une autre époque. Ça a permis quand même d'obtenir pas mal de victoires sociales, d'avancées. Mais depuis, on a changé de logiciel. Il ne s'agit pas de refaire ce qui était dans le passé. Il s'agit de faire autre chose, à inventer.
Et toi, à ton niveau, dans le 93, là où tu interviens d'un point de vue militant, comment tu as vu la dynamique justement du NFP il y a maintenant à peu près un an et demi, son émergence, etc. Est-ce que tu penses que justement le rôle de la CGT, c'était aussi de relayer cette dynamique, d'en être partie prenante, etc. Ou est-ce que là encore, c'était mieux de rester relativement à distance ?
Alors moi, je vais te dire, en toute modestie, j'ai contribué à la première grande initiative du NFP en France. Je suis hyper modeste. Hein. Non, je t'explique pourquoi. Parce qu'on a eu un grand mouvement dans le 93 sur l'éduc pour un plan d'urgence dans l'éducation nationale. Avec un truc bien dynamique, bien péchu, qui a rassemblé CGT FSU solidaire.
Hein, Usual suspects du syndicalisme de transformation sociale.
Voilà, on peut dire ça comme ça. Et des parents d'élèves et tout le personnel politique du 93 qui ont organisé des choses ensemble. C'était l'impulsion syndicale, mais il y avait un soutien lycéens, parents d'élèves, politiques, militants associatifs, tout ça, pour défendre le droit à l'éducation sur notre territoire. Et lors de la venue, alors c'est un mouvement qui a quand même duré pas mal de temps, et un jour, le président Macron se déplace à Saint-Denis pour inaugurer la piscine olympique, et on a fait une petite action avec le slogan « Il pleut dans nos écoles » et on crache je ne sais plus combien de centaines de millions pour une piscine, quoi. Et à la faveur de cette action, la police a jugé bon de me mettre en garde à vue. Bon, c'est vrai. Ça n'a pas été... Bon, c'est toujours chiant d'atterrir 6 heures dans un commissariat, quoi. Mais bon, quand même, répression syndicale, et c'est aussi un bout du fascisme qui vient, quand même, hein, s'attaquer aux syndicalistes, juste parce qu'ils osent dire qu'il y a besoin d'argent pour nos écoles. Et donc, le jour de ma première convocation, on a construit un rassemblement où il y avait pas mal de militants syndicaux, mais il y avait aussi tout l'arc de gauche, quoi, qui était venu, parce que cette histoire de répression, elle était scandaleuse, mais c'était aussi un des événements de ce mouvement qui avait rassemblé la gauche politique et sociale du 93. Et à partir de là, et derrière, je crois, quelques temps après, il y a eu le NFP, la dynamique. Et nous, on s'est appuyé sur ce mouvement pour dire, les gars, on continue, parce qu'il faut se rassembler pour faire barrage, mais il faut aussi que la gauche se rassemble pour défendre notre territoire. Demain, il y a l'extrême droite au pouvoir. En 93, on va morfler plus qu'ailleurs. Demain, l'état de guerre à l'échelle mondiale explose. On va nous morfler dans 93 plus qu'ailleurs. Parce que la militarisation, là je digresse un peu, mais on a aussi une grosse bataille contre la militarisation des consciences, la militarisation des budgets, la militarisation du monde.
Et militarisation de la police dans les quartiers, pas que du 93, mais aussi du 93.
Aussi, on pourra en reparler, mais tu as raison. Tu as raison. Oui, c'est vrai, que ce soit dans les politiques sécuritaires, dans les budgets, dans les consciences, dans la diplomatie, maintenant, ça monte de partout, cette histoire de militarisation. Et notre département, dans nos départements, les services publics jouent un rôle plus important qu'ailleurs, de cohésion sociale, enfin de résorption des inégalités. Donc, si demain on rabote les services publics, nous, on va morfler plus qu'ailleurs. On regarde notre jeunesse comme de la future chair à canon. Moi, je vois fleurir des panneaux Join the Army, voilà, comme à la sortie des lycées, tout ça.
Bien sûr.
Moi, sincèrement, ça me sert les tripes, quoi. Donc, il y a besoin que la gauche se rassemble, politique et sociale, encore une fois, pour faire barrage, mais aussi pour défendre ce territoire qui souffre d'une véritable rupture d'égalité. On l'a vu sur la question de l'école et on peut égrener sur plein de sujets. On est, entre guillemets, discriminé dans le 93, malgré les batailles qu'on mène.
Ouais, et puis malgré le récit qui est précisément celui de l'extrême droite, qui oppose la France des métropoles à la France périphérique, et qui d'une certaine manière, en intégrant un département comme le 93, dans la France des métropoles, laisse entendre que le 93, par exemple, serait choyé par les politiques publiques, par l'État, là où la France périphérique, en gros la France des petits bourgs et des campagnes, elle serait laissée à l'abandon, ce qui, là encore, évidemment, était une présentation fallacieuse.
Et par différents aspects. En fait, en Seine-Saint-Denis, il y a des études, hein, vu la jeunesse, vu le nombre de travailleurs, c'est une population qui paye plus d'impôts qu'elle n'en reçoit, voilà. Et la péréquation qui se joue à l'échelle nationale fait que la Seine-Saint-Denis, on va dire, finance la Nièvre ou l'Ariège, et c'est très bien, c'est comme ça, voilà, c'est la République. Mais il faut casser cette idée qu'on recevrait énormément de manne publique. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le 93 bénéficie de ce qu'on appelle les politiques de la ville, donc des budgets aussi particuliers, on associe différentes administrations pour essayer de corriger des inégalités. Et ça, c'est plutôt des arguments de droite repris par l'extrême droite. Je dis, mais malgré ces budgets de politique de la ville, bah, il y a toujours les mêmes problèmes. Oui, parce qu'en fait, ça marche. Et l'idée derrière, c'est que ça ne fonctionne pas, donc il faut raboter. Non, ça marche. Mais notre territoire est une espèce de sas. C'est-à-dire que tu vas avoir des familles, des jeunes qui vont habiter ici dans le 93 parce qu'ils trouvent du logement, des affinités ou des solidarités de communauté, etc. Ou des politiques publiques qui permettent d'eux. Et puis après, on s'élève un peu dans l'échelle sociale et puis on habite ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas fonctionné. Il y a plein de parcours qui ont commencé dans 93 et qui sont après partis ailleurs. Et c'est, voilà, c'est la liberté de chacun. Mais, et ça, c'est difficilement mesurable. Et le dévouement des élus locaux, du tissu associatif, des solidarités aussi qui existent dans les territoires, dans nos villes, dans nos quartiers. Les legs, encore une fois, de la banlieue rouge, qui fait qu'il y a quand même voilà, il y a une culture un peu particulière, un peu plus solidaire, un peu plus regardante du voisin, fait que ça fonctionne. Tout ça fonctionne, en fait. Mais voilà, le logement social, c'est pas hyper sexy partout, donc certaines familles voilà, vont habiter ailleurs. Donc, tout ça pour dire que moi, avec d'autres, on milite pour... déjà, on a moins que d'autres territoires, et moi, je milite pour qu'on ait davantage, parce qu'on est un espèce... pas trop ce terme, mais un sas d'intégration sociale, en fait, le 93. Souvent, on atterrit dans le 93, et puis après, on est ailleurs. On est la porte d'entrée de la France, pour le dire vite, quoi. Je veux dire que nous, dans le 93, dès qu'il y a une crise géopolitique mondiale, on la voit.
Donc même une crise sanitaire, parce que, par exemple, le 93 a payé lourd la pandémie et le Covid en termes de mortalité.
Exactement. Et on a ce qu'on appelle les salariés de première ligne, bien sûr, qui se lèvent le matin, qui vont bosser.
La France qui se lève tôt, dont parlait Sarkozy, c'est beaucoup la France du 93, notamment.
C'est vrai que c'était assez
en
marrant.
En région parisienne, en tout cas.
Ouais, c'est assez marrant, parce que quand tu regardes le métro et les transports en commun à l'ouest et à l'est, très tôt le matin, tu vois que c'est plutôt racisé et c'est plutôt des gens du 93 qui vont à la Défense ou ailleurs. Donc voilà, il s'agit de casser toutes ces caricatures, toutes ces fausses informations et de travailler la combativité. Tu vois, on est aussi un peu sur l'idée, il ne faut pas non plus qu'on se victimise tout le temps. Tu vois. Il faut réclamer ce qu'on nous doit parce qu'on estime que liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas qu'un slogan, quoi, ça doit être concret. Et que la promesse de ce pays, ben, il faut qu'elle soit réalisée sur notre territoire. Mais l'obtenir grâce à des luttes. Là, je reviens un peu à ma casquette de syndicaliste. Je pense que construire des luttes, c'est important pour élever le rapport de force gagné, mais c'est aussi des temps de socialisation.
Aussi où on se transforme soi-même. C'est-à-dire, tu disais, les gens, ils arrivent avec les idées qui circulent dans la société. Et effectivement, l'expérience syndicale, l'engagement syndical, c'est ce qui permet aussi à chacun et chacune de se transformer et d'acquérir une nouvelle conscience, pas seulement de classe, mais aussi antiraciste, féministe, etc.
Exactement. On essaye de poser les jalons, les graines d'un futur mouvement qui se soulèvera que s'il est demain, c'est démocratique. Quoi.
Ouais, historiquement, par ailleurs, le syndicalisme a été aussi le sas d'entrée dans le militantisme aussi politique pour énormément de militants ouvriers qui ont d'abord été des syndicalistes et puis effectivement le mouvement communiste ou le Parti communiste. Une partie de ces militants venaient du milieu syndical.
Oui. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de jeunes, on a des jeunes qui rentrent dans le syndicat, mais pour des raisons politiques. Et alors ça, des fois, ça nous bouscule un peu. La crise qu'il y a dans les organisations politiques où c'est devenu trop la compétition électorale et il n'y a peut-être pas assez d'espace, de débat, de formation, de construction, d'action désintéressée au sens électoralisme du terme, tu vois, fait qu'il y a une partie de cette jeunesse-là qui intègre le syndicat. Alors, avant, il y avait ce lien, on va dire, du mouvement ouvrier entre PC et CGT. Maintenant, c'est plutôt les questions antiracistes, environnementales, féministes qui font que certains rentrent à la cégette. Et c'est super, c'est intéressant, ça nous bouscule un peu, parfois, parce que je te prends un exemple caricatural, tu vois, un jeune, bac plus 3, bac plus 5, plutôt ancré sur les questions environnementales ou antiracistes, qui rentre à la cégette et qui veut faire de l'écologie ou de l'antiracisme. Faut pas lui dire qu'on va pas le faire, mais nous, mon premier réflexe, c'est de dire, déjà construis le syndicat dans ta boîte. La première chose à faire pour faire grandir et le niveau de conscience et l'outil syndical et se donner des atouts pour faire bouger un certain nombre de lignes, c'est de construire un syndicat dans sa boîte. Donc, il ne faut pas que la CGT, ça soit le super parti politique où tu viens dans les réunions de l'Interpro pour dire « je veux ceci, je veux cela, faisons un trad qu'on balance dans le marché ». On peut le faire, mais quand même, le premier objectif, c'est dans la boîte. Là où aussi se joue le rapport capital-travail, là où au quotidien, il y a des gens qui sont de proximité, avec lesquels tu as des liens. C'est avant tout ça que tu dois tirer et c'est avec cette matière-là que tu dois construire et syndicalement et politiquement l'outil.
Il y a un débat à gauche autour de... notamment qui part de la question de l'interprétation du vote pour le RN, et qui dit est-ce que c'est la classe, est-ce que c'est le racisme, est-ce que c'est des révoltés par rapport à la mondialisation et ses effets, ou est-ce que c'est le racisme, l'islamophobie, la xénophobie anti-immigrée, etc. Comment, toi, tu te positionnes par rapport à ce débat un peu stratégique qui, disons, a lieu à gauche entre certaines composantes de la gauche de transformation sociale, en tout cas qui se reconnaissent dans un projet de transformation sociale. Et alors, je ne vais pas élargir sur la CGT, mais en tout cas, toi, est-ce que tu as une position par rapport à ces débats stratégiques-là ? Parce que ça suppose, en gros, pour certains, de dire, bon, la question du racisme, vaut mieux la laisser de côté ou la mettre un peu sous le tapis, et d'autres, d'autres qui peut-être accentuent davantage cette dimension-là.
Alors, elle est complexe. La première réponse, c'est qu'il faut tout articuler. Il n'y a, voilà, il y a pas de hiérarchie des luttes. Il faut tout articuler. Heureusement qu'il y a des émissions comme la tienne, tu vois, pour qu'on puisse se nourrir d'analyses, etc. Mais c'est vrai, tu en fais partie, Hugo, tes bouquins, tes émissions, il y en a d'autres. Je prends un exemple. Moi, je fais partie aussi d'une commission de lutte contre les idées d'extrême droite au niveau confédéral, au niveau national. Et donc, c'est là où on réfléchit sur nos formations, les réactualiser. On en a construit une dernièrement avec la FSU, parce que dans le cadre du travail en commun avec la FSU, il y a aussi cette idée de se mettre aussi ensemble pour contrer la montée de l'extrême droite et faire des choses ensemble. Et le premier sujet qui est arrivé à faire en commun, ça a été la formation contre les idées d'extrême droite. Et donc, dans le cadre de cette commission, on réfléchit, comme tu le poses. Moi, j'ai essayé d'amener, en me basant sur des travaux de sociologues, et notamment une note qui s'appelle « Le bras long du travail », qui dit la chose suivante, que l'organisation du travail dans l'entreprise, trop hiérarchique, voire autoritaire, qui donne pas assez d'espace...
Thomas Coutreau, économiste.
Exactement, Thomas Coutreau, et d'autres aussi, qui tirent un peu le même fil, qui part du travail pour expliquer éventuellement des réflexes électoraux. Que si on donne un peu plus de liberté,
d'autonomie prise de décision collective.
Exactement, pas de liberté, exactement. Autonomie, prise de décision collective. On arriverait à d'autres réflexes et pas sur du vote pour des partis autoritaires. Et donc, on a eu un débat. Certains pensent que il faut transformer la société. C'est en transformant la société qu'on luttera contre le fascisme et l'extrême droite. Et certains sont plutôt intéressés en disant mais il y a peut-être différents champs sur lesquels il faut intervenir pour essayer de faire notre job. Donc voilà, moi je pense qu'il faut articuler toutes les luttes, toutes les batailles. Je suis quand même assez sensible à l'idée qu'il faut, au niveau de la CGT, essayer d'agir avant tout sur le travail. C'est-à-dire que notre contribution, s'allier à d'autres, à des organisations politiques, au monde associatif, sur la lutte contre les idées d'extrême droite. Mais nous, notre contribution, c'est pas d'être un super parti ou être une super assos. C'est de partir du boulot, du travail. Et c'est pour ça que ce boulot de Coutreau et d'autres, je le trouvais intéressant en disant pourquoi pas travailler cet angle-là. Ça peut peut-être permettre de faire régresser le vote d'extrême droite. Après, c'est vrai que la première mission, c'est d'améliorer les conditions de vie des salariés, d'augmenter les salaires, de renforcer les sécurités sociales, tu vois, de lutter contre les précarités. Je pense que le cœur du problème, il est là, à mon avis. C'est ce déclassement, cette angoisse sociale qui fait progresser les idées d'extrême droite. Mais, j'ai envie de te dire, mais demain, si tu as un socialisme pur et parfait en France, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas de racisme anti-black ou anti-rebeux, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi des sujets, entre guillemets, sociétaux.
Par ailleurs, le racisme est aussi une question qui est posée à partir de la sphère du travail. Et dans la sphère du travail, tu parlais de la question des sans-papiers. Donc, derrière, il y a aussi la question d'une forme de xénophobie anti-immigrée d'État, alimentée par des politiques, à la fois des discours, mais aussi des politiques anti-migratoires, etc. Et d'une certaine manière, il y a la question des discriminations raciales sur le marché du travail, dans le monde du travail, dans les entreprises, etc. Donc, potentiellement, on pourrait poser la question du racisme aussi à partir de la question du travail.
Alors ça, c'est... J'ai omis de le dire, ça existe et c'est parmi les choses sur lesquelles il faut bosser. Ça dérape même parce que dernièrement, j'ai vu un tract passer d'un syndicat du Val d'Oise où tu as un collègue sur son casier, je ne sais où, on a écrit sale arabe, je ne sais quoi. Et ça peut aussi se développer, ce type de choses dans les entreprises. Et il y a, mais ça c'est quelque chose qui date maintenant, la lutte contre la discrimination. Ouais, discrimination à l'embauche, discrimination dans les parcours professionnels.
La promotion, les salaires,
que ce soit en raison de sa, entre guillemets, race supposée, de sa couleur de peau, ou en raison de son genre.
Ou de la religion, oui.
son genre, sa religion.
Parce que voilà, il y a quand même une, notamment une islamophobie très montante et de plus en plus alimentée par des discours, pas seulement de l'extrême droite, mais de la droite traditionnelle et même d'une partie de gens parfois liés au Parti Socialiste ou anciennement liés au Parti Socialiste. Donc effectivement, on peut malheureusement s'attendre à ce que se renforce toute une série de discriminations, y compris spécifiquement à l'encontre des musulmans et notamment des musulmanes d'ailleurs. Sur la question des signes religieux, etc.
Sur la question des signes religieux, dernièrement, il y a eu un truc assez fou à la RATP où on faisait la chasse aux petites bouteilles d'eau dans les toilettes.
Oui,
ça, j'ai envie de te dire, la meilleure façon de lutter contre, c'est l'implantation syndicale. Parce que quand il y a des organisations syndicales, c'est des choses qui remontent. Il n'y a rien de pire que quelque chose qui existe avec des salariés qui baissent la tête parce qu'ils ne savent pas où se retourner et puis ils ont peur pour leur emploi ou tu as la pression du groupe, des choses qui doivent exister. Mais quand il y a du syndicalisme, et là, je dis... Pas que CGT, hein, parce que voilà, s'il y a d'autres organisations syndicales, ça permet aussi d'aller essayer de se défendre, quoi. Mais bien sûr, il faut être très attentif et vigilant, parce que c'est des choses qui montent, ouais. L'islamophobie, ça monte aussi dans le monde du travail.
Il y a un autre débat stratégique, et je propose peut-être qu'on clôt l'entretien là-dessus, c'est autour de l'unité. Bon, on a un peu parlé autour du nouveau Front Populaire, etc., tout à l'heure, avec peut-être deux conceptions pour caricaturer un peu, hein, mais l'unité à tout prix. Avec tout le monde et sur un programme qui est le plus petit dénominateur commun et potentiellement qui s'aligne sur une forme de moins-disant en matière sociale notamment, de transformation sociale, mais aussi sur les questions de guerre, etc. Et puis une conception de l'unité qui est l'unité sur nos bases et donc sur des bases avec une sorte de maximalisme parfois programmatique, etc. Comment la CGT se positionne par rapport à ça? Parce que c'est pas un débat facile, notamment parce que la CGT est de fait extérieure effectivement à cette sphère partisane et veut rester extérieure, ce qui est logique. Évidemment, on pousse à l'unité, puisqu'on ne peut pas combattre l'extrême droite de manière dispersée, fragmentée, mais est-ce qu'il y a une position de la CGT sur cette question de l'unité?
Alors, je vais parler en mon nom.
Ouais, très bien.
Je vais parler au nom de la CGT. C'est une montagne, cette histoire. Bah, tu l'as assez bien résumé. Il faut pas être maximaliste, mais il faut pas être non plus mou du genou, parce que on sait très bien que, voilà, on va prendre l'exemple américain. Quand t'as une gauche trop molle, ben ça ouvre la porte au pire. Hein, et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas folklorique, quoi. C'est pas exotique. Hein, ça peut très bien atterrir demain en Europe et pourquoi pas en France. Hein. Rien que cette histoire de légitime défense là et de présomption de légitime défense, je crois que ça s'appelle comme ça, ce projet de loi. Bah demain, les images effrayantes qu'on a vues avec ce jeune infirmier qui s'est fait tirer dessus, qui était littéralement abattu, ça peut très bien arriver en France. Et puis quelqu'un qui se fait filmer. Bon, c'est pas grave, la loi dira qu'il avait le droit de se défendre. Enfin, bon. Donc l'exemple américain démontre qu'il ne faut pas en rabattre sur les contenus, qu'il faut véritablement proposer et gagner l'adhésion à un programme de rupture. C'est comme ça qu'on luttera fondamentalement contre le fascisme. Voilà, fascisme et capitalisme sont malheureusement assez liés. Mais il y a l'urgence. Et je peux te dire que moi, de ma position de fils d'immigrés, de syndicaliste, d'habitant du 93, je suis quand même pas mal de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, quoi. Je me dis qu'il y en a quand même dans le pays qui vont peut-être plus se morfler que d'autres et que des fois, faudrait penser un peu à eux, quoi. Et donc, on est, enfin, moi, personnellement, je suis assez partagé entre la nécessité, encore une fois, de ne pas créer les conditions pour qu'on ait du hollandisme demain au pouvoir, qui serait une catastrophe, parce que là, ça serait le tapis rouge pour l'extrême droite derrière. Et quand tu vois... tu vois, le paysage à gauche, t'aimerais bien leur trouver la réponse, leur dire, mais faites ça, quoi. Mais c'est vraiment pas simple. Donc, nous, notre réponse, c'est les luttes. C'est d'organiser des luttes et de faire en sorte que le mouvement social mette d'accord le politique. Et que le mouvement social donne confiance aux politiques. C'est-à-dire qu'ils se disent, il y a quelque chose qui se soulève, on va s'appuyer dessus et ça va peut-être créer une dynamique électorale. Et derrière... Si on décide de prendre des mesures radicales, on pourra s'appuyer sur ce mouvement social pour contrer la contre-offensive de la bourgeoisie, pour le dire vite. Donc ça veut dire que ça nous place face à une énorme responsabilité. Mais voilà, les grandes pages de l'histoire, Front Populaire, etc., c'est là-dessus sur lequel on se base. Bon,
oui, c'est ça, le Front Populaire de 36 est la traduction électorale d'une dynamique qui a commencé... dans les luttes suite à la tentative de coup de force de l'extrême droite en 34 et ensuite des grèves du printemps en 36 qui, elles, vont réussir à conquérir les congés payés, les premiers congés payés, la semaine de 40 heures, etc. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que le NFP, le Nouveau Front Populaire en 2024, est aussi une forme de traduction sur le terrain électoral de l'unité syndicale contre le projet de réforme des retraites.
Voilà, c'est un peu comme ça qu'on argumentait, sauf qu'on a presque gagné les élections. Mais si jamais on avait eu une dynamique un peu plus élevée, peut-être qu'on aurait eu quelqu'un de gauche à Matignon, d'une vraie gauche, et ça aurait, je pense, encouragé le mouvement social à continuer d'impulser, de construire des batailles sociales. Un gouvernement qui met fin à la retraite à 64 ans, qui revient à minima à 62 ans, et nous avec la perspective des 60, je pense que ça donne envie et de l'enthousiasme aux salariés pour continuer à se mobiliser. Le schéma, il est dans les têtes à construire le plan de bataille, c'est celui-là, quoi.
Ouais, et effectivement, s'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de carburant pour, y compris la gauche sur le plan politique. Donc si la lutte sociale, ça reste l'alpha en partie et l'oméga pour tout projet de transformation sociale.
Nous, c'est notre conviction, parce qu'il s'agit aussi de ne pas leur déléguer nos luttes, nos choix, quoi. Bien, nous, c'est ni César ni tribun. On ne va pas attendre que quelqu'un décide à quatre dans un bureau de telle ou telle réforme. C'est à nous de les imposer, c'est à nous de surveiller derrière, c'est à nous de construire démocratiquement telle et telle évolution, tel et tel chemin, et avec, bien sûr, le politique. Mais il n'y a pas de délégation.
Il n'y a pas de sauveur suprême.
Exactement.
Pour reprendre les mots de l'international. En tout cas, merci à tous et toutes de nous avoir écoutés et d'être fidèles à Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. J'étais aujourd'hui avec le syndicaliste Kamel Brahmi pour parler du rôle des syndicats dans le combat contre le fascisme, contre l'extrême droite. Je le remercie et j'en profite pour remercier également Aurélien Thom qui a rejoint ce podcast depuis un an en tant qu'ingénieur du son et grâce à qui vous pouvez nous écouter aussi régulièrement et avec ce niveau de qualité sonore. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle. En attendant, face aux fascistes, face à la fascisation, on serre les rangs et on tient la ligne.
O povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. Spectre.